Bonjour, nous sommes la classe de 6e Eva de l'école Ahmed et voici notre gazette.
Le gouvernement belge doit établir un budget pour 2026 en faisant attention à l'équilibre de celui-ci. En effet, il s'agit de trouver au minimum et progressivement 10 milliards d'euros d'ici 2030. Il y a plusieurs pistes pour y arriver. Augmenter les recettes, emprunter ou minimiser les dépenses. Cela va s'avérer difficile et créer des tensions.
L'État belge est sous pression avec ses difficultés budgétaires et doit établir un budget d'ici 2026. Un budget est une somme d'argent fixée à ne pas dépasser. Elle servira à nourrir le pays en finançant par exemple la police, l'armée, la santé, etc. Cet argent vient des citoyens belges. Une partie de leur salaire est récupérée et il y a des taxes sur ce qu'ils achètent et possèdent. Le problème, c'est que le budget n'est pas équilibré. Il y a déjà un trou de 25,5 milliards d'euros et nous devons continuer à vivre et à rembourser cette dette. Pour cela, l'État doit faire des choix décisifs. Plusieurs solutions s'offrent à lui. Emprunter, mais cela implique de rembourser plus. Augmenter les taxes et les impôts. Ou réduire les dépenses et les aides. Mais ces deux dernières solutions sont problématiques pour les Belges. Dernière proposition, un citoyen dont les impôts sont allégés dépensera plus au quotidien. Il va donc falloir que l'État prenne une décision rapidement pour récolter 10 milliards d'euros d'ici 2030.
Créé en 2016 par une entreprise chinoise, TikTok est l'une des applications la plus utilisée au monde. Actuellement, Amnesty International France a lancé une enquête pour prévenir et éviter les dangers de TikTok pour les jeunes. Katia Roux, chercheuse pour Amnesty International, nous parle de son étude.
TikTok est un réseau social pour regarder, créer et s'envoyer des vidéos, surtout utilisées par les jeunes adolescents. Pour nous rendre accros, l'application utilise des algorithmes. En fonction des vidéos regardées, l'algorithme enregistre ce que l'on regarde pour proposer toujours plus de vidéos du même genre. Pour leur analyse, des chercheurs d'Amnesty International ont créé trois profils de jeunes de 13 ans pour tester la sécurité sur cette plateforme. Avant même de chercher des contenus, les chercheurs ont remarqué que les vidéos sur la santé mentale apparaissaient déjà après 5 minutes. Beaucoup de vidéos pas du tout adaptées aux enfants peuvent nous choquer et nous influencer très vite. Des vidéos de scarification, des contenus dépressifs peuvent alors devenir le seul type de vidéo proposée et transformer ça en obsession pour les utilisateurs. Avec cette étude, Amnesty espère aider l'Union européenne à créer des meilleures lois pour mieux protéger les mineurs et les personnes les plus sensibles. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler le 103 et le 116 3x0 pour les enfants ou le 0800 32 123 pour la prévention suicide.
L'empathie, un terme qui revient souvent de nos jours, mais qu'est-ce que ça veut dire ? L'empathie, c'est ressentir l'émotion des autres, qu'elle soit triste ou heureuse, on vous explique.
L'empathie nous fait ressentir l'émotion d'une autre personne. Elle nous fait comprendre pourquoi cette personne ressent cette émotion et nous fait adopter un comportement en fonction. L'émotion ressentie peut se manifester pour de la tristesse, mais également pour de la joie chez une autre personne. Il existe trois types d'empathie. L'empathie affective se développe dès la naissance. L'enfant ressentira l'émotion de l'autre, mais ne sera pas encore capable de la gérer. L'empathie comportementale se développe vers 2 ans. L'enfant commence à comprendre ce que l'autre ressent et essayera de l'aider au besoin. Et troisièmement, l'empathie cognitive, développée entre 3 et 6 ans, nous permet enfin de comprendre les émotions de l'autre. Chaque personne est différente et peut ressentir plus ou moins d'empathie. On sera plus empathique pour les gens qui nous seront proches, comme nos parents, nos frères, nos sœurs et nos amis. Plus on a d'empathie, plus on sera capable de gérer nos émotions, de développer nos compétences sociales. Pour résumer, l'empathie nous est précieuse tant qu'on la gère.
Cette semaine, nous avons réalisé un micro-trottoir sur nos garde-robes en fonction des saisons. Voici les réponses qu'on a reçues.
Quelles pièces ou accessoires deviennent indispensables quand il fait plus froid ?
Pour moi, c'est une écharpe.
Un manteau.
Une veste. Le manteau.
Puis, une grosse veste d'hiver, un bonnet, une écharpe.
Achetez-vous de nouveaux vêtements à chaque saison ou gardez-vous ce que vous avez déjà ?
Je garde, j'ai plutôt tendance à garder. J'achète des nouveaux.
Normalement, j'essaye de garder ce que j'ai déjà, mais de temps en temps, j'achète quelque chose de neuf.
Les deux, je garde ce que j'ai et puis je complète. Je remplace ce qui est usé.
J'essaie de garder ce que j'ai, mais si j'ai plus, alors j'achète.
Comment adaptez-vous votre garde-robe aux saisons d'été ou hiver ?
Au début de l'été, je rends plus accessibles mes vêtements d'été, je range mes vêtements d'hiver. Et maintenant, là, je me disais justement que j'allais ressortir mes vêtements d'hiver et ranger mes vêtements d'été dans des grands sacs.
Dans la même garde-robe, été et hiver.
Je range ce qui est été quand c'est l'hiver et puis vice-versa.
Alors, j'ai deux garde-robes. Une avec les vêtements chauds et une avec les vêtements légers. Et ce qu'on appelle les vêtements de demi-saison, je les mets toujours près de moi, parce qu'en Belgique, c'est ce qu'on utilise le plus.
Ah, ça, c'est une grande organisation. On met tout dans un sac, on met ça au grenier, et on va chercher le sac du grenier qu'on met dans l'armoire.
Aujourd'hui, nous recevons Raphaël Narden, qui est médecin généraliste et médecin du sport. Et voici les questions que nous lui avons préparées.
Pouvons-nous mourir de déshydratation ? Et si oui, pourquoi ?
Oui, bien sûr, on peut mourir de déshydratation. Vous savez que le corps humain est fait de 60 à 70% d'eau. Les jours normaux, on perd plus ou moins 2 litres d'eau par jour par la respiration, par la transpiration, par les urines, entre autres. Et donc, si on ne compense pas cette perte en buvant de l'eau, 1,5 litre, 2 litres par jour, on peut commencer à avoir des symptômes de déshydratation. Un des symptômes les plus connus, vous savez, quand on commence à être déshydraté, qu'est-ce qu'on ressent ?
La soif.
La soif, exactement. Et puis, dès qu'on commence à perdre encore plus d'eau, évidemment, les symptômes deviennent un petit peu plus graves. On commence à être fatigué, à avoir la nausée. Et puis, ça devient évidemment de plus en plus critique. Donc, on estime que si on ne boit pas d'eau pendant 24 à 48 heures, ça peut commencer à devenir grave. Donc à partir de 2 jours, on peut, si on est dans le désert par exemple, après 2 jours, on peut mourir de déshydratation.
Monsieur Narden, pourquoi des coups de soleil arrivent plus vite sur certaines personnes que d'autres ?
On n'a pas tous le même phototype de peau, ça s'appelle un phototype, c'est-à-dire la quantité de pigments qu'on a dans la peau. On n'a pas tous la même couleur de peau. Et donc ce pigment s'appelle la mélanine, qui nous protège par rapport aux ultraviolets, aux UV du soleil. Et donc il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de mélanine, qui ont la peau très claire, qui ont les yeux bleus, et il y a des gens qui ont plus de mélanine, qui ont la peau plus foncée, qui sont mieux protégés. Ça, c'est la première cause. Et donc quelqu'un qui a la peau plus claire aura plus vite des coups de soleil que quelqu'un qui a plus de mélanine et qui sera mieux protégé. Deuxièmement, il y a aussi les comportements. Donc, il y a des gens qui mettent pas bien pas de crème solaire, qui mettent pas de chapeau, qui se protègent pas bien. Et donc, eux auront plus vite des coups de soleil que ceux qui se protègent bien, tout simplement.
Quelles sont les maladies les plus courantes en hiver et pourquoi ?
Pour le moment, de ce que je vois à ma consultation, il y a plusieurs virus qui circulent. Il y a le Covid, les rhinopharyngites, le rhinovirus. Et alors, il y a l'influenza, qu'on appelle la grippe, qui va arriver bientôt, qui commence un petit peu. L'épidémie n'a pas encore commencé, mais vous savez que ce sont des épidémies saisonnières. Donc les grosses épidémies de grippe arrivent en hiver, des fois en décembre, des fois en janvier. Mais donc pour le moment, elle n'est pas encore là.
Pourquoi ces maladies sont seulement en hiver ?
Alors elles ne sont pas seulement en hiver, mais c'est clair que le froid facilite la transmission des virus. Pourquoi ? Parce qu'alors nos défenses, les muqueuses du nez, de la gorge, etc. sont plus fragiles en hiver. Les virus sont plus résistants aussi au froid. Il y a aussi une autre raison, c'est qu'en hiver, souvent, comme il fait très froid dehors, on reste fort à l'intérieur, on n'ouvre pas les fenêtres. Et donc, les virus se propagent plus rapidement. Si on est 40 dans une classe, les vitres fermées, les fenêtres fermées, et que on n'aère pas, on est moins souvent dehors, les virus, la contagion se fait plus facilement.
Peut-on tomber malade à cause du vent ?
Non, ce n'est pas le vent qui nous fait tomber tomber malade, mais de nouveau pour les mêmes raisons que j'ai dit avant. Le froid fragilise un petit peu nos défenses, nos muqueuses, et le fait que quand il fait froid, évidemment, on reste fort enfermé. Et donc c'est pas le vent qui nous fait tomber malade, mais évidemment quand il fait froid, on est plus sensible, on est plus fragile, et le fait de rester à l'intérieur, évidemment, favorise la contagion des virus. Mais donc c'est pas le vent qui nous fait tomber malade, non.
Pourquoi nos extrémités sont-elles plus sensibles au froid ?
Quand il fait froid, le corps concentre son sang pour les organes vitaux, donc le cœur, le cerveau. Et donc, si vous allez, par exemple, dans l'eau très froide, eh ben, le sang va se concentrer sur les organes plus importants que les autres. Et donc, au niveau des extrémités, les oreilles, le nez, les mains, les pieds, il y aura moins de circulation sanguine à cet endroit-là. Et donc, une sensation de froid, parce qu'il y a moins de sang qui circule. Deuxièmement, il y a aussi beaucoup plus de terminaisons nerveuses. Hein, donc, quand vous touchez les choses avec les mains, vous allez plus sentir que si vous le faites avec le coude ou le genou, par exemple. Et donc, on ressent plus la douleur ou le froid au niveau de ces extrémités.
Vous parlez de terminaisons nerveuses, mais qu'est-ce que c'est ?
En fait, les terminaisons nerveuses servent un petit peu les sensations qu'on ressent. Donc, au bout des doigts, on a les terminaisons nerveuses pour ressentir les choses, pour toucher la douleur, par exemple. Donc, ça sert, si vous mettez votre main sur une... quelque chose de brûlant, vous allez l'enlever. C'est un réflexe qu'on a. Et donc, ces terminaisons servent à nous défendre, à sentir, à toucher. Et donc, dans les extrémités, il y a plus de terminaisons nerveuses. C'est pour ça qu'on peut toucher et sentir mieux avec les doigts qu'avec le coude ou le genou, par exemple.
Pourquoi toussons quand on est malade ?
Bien, les muqueuses sont irritées. Les muqueuses, c'est la surface en fait de nos voies respiratoires, entre autres. Et donc, elles sont irritées par les infections. Et donc, ça provoque le réflexe de toux. C'est un réflexe, donc c'est une défense que le corps fait pour essayer de faire sortir les sécrétions, les crasses. Donc, quand on a des glaires, par exemple, hein, c'est des petites sécrétions qui englobent les virus pour pouvoir les faire sortir. Et donc, c'est des réflexes pour faire sortir le virus de notre corps. Et donc, si on ne toussait pas, toutes ces microbes resteraient à l'intérieur de nous, provoqueraient évidemment des surinfections bactériennes et des choses comme ça. Donc, la toux est un réflexe important pour se protéger, pour essayer de faire sortir les microbes, entre autres.
À quelle période de l'année avez-vous le plus de patients ?
Eh bien, c'est en hiver, hein, pour les mêmes raisons dont on a parlé tout à l'heure. On a un système immunitaire qui est un peu plus faible, on est un peu plus fatigué, on a un manque de lumière et donc de vitamine D. On a une petite baisse de notre système immunitaire, notre système de défense. Et en même temps, les virus sont plus résistants au froid, donc il y a plus de virus qui tournent. Et donc en hiver, on a beaucoup plus de gens qui tombent malade, parce qu'on se défend un petit peu moins bien, et il y a beaucoup plus de virus qui nous attaquent. Et donc, les gens qui arrivent à bien dormir, à pas trop être stressés, à bien manger, ou à se vacciner, par exemple, contre la grippe, eh ben, vont être mieux protégés que les autres.
Quand c'était le coronavirus, il y avait plus de patients parce que, ils tombaient tous malades en été.
C'est ça qui était assez anormal à cette période-là, qui a fait peur un petit peu à tout le monde, parce que c'était des épidémies de virus qui normalement ne se passent pas à ce moment-là. Complètement inhabituel d'avoir des épidémies. Alors il y a des gens qui tombent malades aussi en été, mais il n'y a pas d'épidémie, en tout cas beaucoup moins d'épidémies, donc de grosses infections comme ça, très contagieuses. Et donc justement avec le Covid, ça nous a fait peur et ça a inquiété le monde scientifique, parce que c'était pas habituel d'avoir des épidémies à ce moment-là.
Y a-t-il plus de malades dans les pays où il fait froid ?
Non, pas à ma connaissance. Les gens se protègent mieux. Alors, les maladies ne sont pas les mêmes, les épidémies ne sont pas les mêmes non plus, les carences vitaminiques ne sont pas les mêmes non plus, donc c'est difficile de comparer. Mais effectivement, les gens tombent malades en Afrique où il fait chaud, et les gens tombent malades en Norvège où il fait très froid. Mais il n'y a pas plus de gens malades dans les pays où il fait froid, pour différentes raisons.
Depuis le début, on parle des virus et des bactéries. Mais quelle est la différence entre un virus et une bactérie, et est-ce que ça se soigne de la même manière ?
Non, ça se soigne pas de la même manière. Donc un virus a besoin d'un hôte pour se multiplier. C'est pour ça que souvent le virus essaye de ne pas tuer son hôte hein, pour survivre. C'est pour ça que par exemple le Covid a un petit peu muté. Il y a différents variants qui maintenant sont moins graves parce qu'il a compris entre guillemets qu'il devait pas tuer son hôte. Et donc vous savez aussi que les bactéries sont soignées par des antibiotiques. Qui tue ces bactéries. Il ne faut pas tuer toutes les bonnes bactéries aussi. Dans le microbiote, dans notre ventre, il y a aussi des bonnes bactéries qui servent à la digestion, qui servent aussi aux défenses naturelles. Donc ça, ce sont des bactéries qu'il ne faut pas tuer. Il y a aussi des bonnes bactéries. Mais donc, un virus n'est pas tué par des antibiotiques. Ça ne sert absolument à rien de prendre des antibiotiques très vite ou de demander des antibiotiques à son médecin dès qu'on est malade. Par contre, quand on est malade d'un virus, de la grippe par exemple, ce qui est dangereux, c'est la surinfection. Donc quand le corps est trop faible ou trop épuisé par son système immunitaire qui essaie de se défendre contre ce virus, eh ben une bactérie peut surinfecter cette maladie et donc on peut faire une pneumonie par exemple juste après une grippe. Et donc ça nécessite la prise d'antibiotiques évidemment.
Le corps s'adapte-t-il aux différents virus que nous attrapons ?
Alors oui, le plus important, c'est justement l'immunité. Donc le système immunitaire, en fait, quand on est malade, par exemple contre la grippe, il produit des anticorps qui reconnaissent après ce même virus. C'est pour ça que normalement, on n'attrape pas deux fois le même virus si on a un bon système immunitaire. Et c'est un petit peu le rôle des vaccins également. C'est-à-dire qu'on produit des anticorps qui sont vraiment spécifiques contre ce virus. On se protège, on ne peut pas attraper deux fois le même virus, en tout cas si on a un bon système immunitaire. Et donc, c'est pour ça que les virus adoptent une stratégie et donc ils mutent, ils se transforment. Et donc la grippe qui arrive chaque année n'est pas la même. Il se transforme un petit peu pour que notre système immunitaire ne puisse plus le reconnaître tout à fait. Et donc, il change, il mute. Il y a des variants, par exemple, aussi avec le Covid. Ce sont des stratégies pour que notre système immunitaire ne puisse pas les reconnaître. Et donc, c'est pour ça que la grippe, il faut se vacciner chez les personnes sensibles et les personnes de plus de 65 ans. Se vacciner chaque année parce que le virus n'est pas le même et donc le vaccin n'est pas le même. Et nous, chaque année, on doit reproduire des anticorps différents contre un virus différent. Donc on peut attraper chaque année la grippe si on n'a pas de chance ou si on est un petit peu plus fragile.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir ce métier ?
C'est une bonne question. Déjà, je voudrais vous dire merci de m'avoir invité parce que moi, j'étais élève à l'école AMED aussi. De ma première et ma sixième primaire, j'étais ici, dans la même école que vous. Je pense pas que ce soit à ce moment-là que j'ai décidé d'être médecin. J'étais encore un petit peu jeune. C'est quelques années plus tard, j'ai fait un stage en médecine et qui m'a donné envie d'aider les autres. Donc je devais avoir 16 ans, je pense, à ce moment-là. Mais donc de revenir à l'école AMED, ça me rappelle quand même beaucoup de souvenirs. Et bon, vous êtes en sixième, donc l'année prochaine, vous serez en humanité. Vous avez encore le temps de choisir votre futur métier, peut-être à la radio, qui sait. Ça va peut-être vous donner des idées.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous, les enfants.
Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver notre gazette sur le www.radioalma.eu/gazette. Rendez-vous début décembre pour la prochaine gazette.